Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, et vous-même?
Eh bien, ça va pas mal.
Bon.
Camaricille, merci beaucoup de m'accorder du temps ce matin pour répondre à mes quelques questions.
Mais c'est normal, merci à vous.
Et ma première question, qui est un peu une question rituelle, comment est-ce que vous aimez vous présenter quand on vous demande de vous présenter?
Alors, moi, je me présente comme présidente de la Fondation Zinsou, qui est une fondation que j'ai créée il y a 15 ans maintenant, au Bénin, et qui avait vocation et qui a toujours vocation à faire découvrir la création contemporaine sur le continent africain.
Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du continent africain, Zinsou, c'est pas un nom qui est méconnu, on va dire. Est-ce que vous avez baigné depuis votre toute tendre enfance, on va dire, dans l'art, ou c'est quelque chose vraiment que ça a été une exploration personnelle?
Alors, en fait, moi, je viens d'une famille où, au départ, mes deux parents étaient professeurs. Et donc, je pense que ça joue beaucoup sur la façon dont on appréhende l'art dans ma famille, parce que on a une version très classique, j'ai envie de dire, d'enseignants de bonne qualité, de faculté, et, voilà, qui emmènent leurs enfants au musée. Et donc moi, pour moi, l'art, c'est depuis que je suis toute petite, c'est tous les mercredis, tous les samedis, avec ma mère. Avec mon père, dès qu'on part à l'étranger, et on prépare les vacances en fonction des musées qu'on va visiter.
Ah,
Donc, quand
d'accord.
je suis petite, on va en Italie et en vacances, et voilà, on sillonne les musées, on en fait un ou deux par jour en fonction des âges qu'on peut avoir avec mes sœurs.
D'accord.
Et du coup, l'arrivée de l'art contemporain du continent africain dans ma vie, ça vient plus tard, parce que quand je suis petite, je vois beaucoup d'expositions, mais en fait, il y en a très peu consacrées à l'Afrique. Donc, je vois des expositions d'art ancien, d'art classique. Donc, je vais beaucoup au musée d'Appert, je vais au musée de l'Homme. Voilà, donc je découvre l'art africain ancien, mais je suis très peu confrontée, quasiment pas confrontée aux formes contemporaines, parce que moi je vis en France, parce qu'on a une famille politique béninoise qui est exilée pendant toute une révolution marxiste-léniniste qui met à mort par contumace tous les hommes de la famille. Donc du coup je serai pas au Bénin, donc je rencontrerai pas de créateurs contemporains béninois. Donc, du coup, l'arrivée pour moi de l'art contemporain d'Afrique dans ma vie, c'est vraiment, j'ai envie de dire, Düsseldorf en 2004, l'exposition Africa Remix de Simon Djani.
D'accord. Qui est l'un des commissaires du FIT, du coup?
Voilà, et moi je sors de cette exposition, je l'ai vu avec mon père qui m'a dit il se passe quelque chose, il faut qu'on aille le voir, on prend l'avion le matin, on va à Düsseldorf, et le soir dans l'avion en rentrant, on se dit ok, moi j'habite déjà au Bénin depuis un an et demi, et on se dit ok, c'est formidable de voir ça en Allemagne, c'est une merveilleuse visibilité, mais en fait il faut voir ça sur le continent. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. À ce moment-là, moi, en 2004, j'ai 20 ans, 21 ans. Et donc, du coup, on se dit, OK, on va essayer. Personne ne le fait, mais il faut qu'on essaye parce que il faut montrer ça en Afrique. Il n'y a aucune raison de se dire que, les meilleurs artistes, la création la plus pointue est visible uniquement en Europe. Ça n'a aucun sens. Il faut que ce soit vu sur le continent. Il faut que ce soit accessible à tous. Et donc, on part de cette idée un peu diffuse. De cette conversation pour créer un lieu.
Ouais. Alors comment c'est reçu? Est-ce qu'on vous déroule le tapis rouge, ou au contraire est-ce qu'on vous met des bâtons dans les roues? Comment ça se passe? Comment vous passez de l'idée à l'implantation d'un lieu?
Alors, au départ, il faut lutter contre soi-même et contre l'idée qu'on n'est absolument pas destiné à faire un musée, qu'on n'a aucune compétence sur le sujet. Et donc, comment est-ce qu'on va se charger de faire ça, sachant qu'a priori, personne n'a l'air d'être très intéressé à l'idée de mettre en place un musée d'art contemporain sur le continent. Donc, au départ, il faut lutter contre soi-même et se dire, OK, bon, il faut y aller. À un moment, il faut se lancer. Même si, je vous dis, on a 21 ans et que c'est pas forcément évident. Et après, il y a une personne qui change tout. Une des très rares personnes, ils sont cinq à avoir pensé que c'était une bonne idée au départ. Il y a la personne qui est en train de créer le musée du Quai Branly avec Stéphane Martin, qui est Germain Viat, qui vient du Louvre et qui fait un séminaire au Bénin. Et je me dis qu'il faut que je le rencontre parce que comme c'est quelqu'un qui est en train de créer un musée, il a une expérience que je n'ai pas et qui peut m'apporter quelque chose. Et à ce moment-là, je lui parle, on dîne ensemble au Bénin et il me dit, écoutez, oubliez toutes vos inquiétudes, prenez n'importe quel espace, mettez la pancarte musée et lancez-vous. Et puis, faites-le professionnellement, faites-le sérieusement, mettez-y de l'énergie et tout ça et vous verrez, ça marchera. Bon, alors forte de ça, je me dis, ok, le type quand même est en train de créer un immense musée, il est conservateur depuis toujours, il est extrêmement connu, si ça se trouve, c'est lui qui a raison. Et là, tout le monde me tombe dessus en me disant que ça ne sert à rien. Preuve en est que si ça servait à quelque chose, ben, ça existerait déjà.
Depuis longtemps, oui.
Que les Africains ne vont pas au musée. Ça, c'est un gène très spécifique aux Africains dont beaucoup de gens parlent et que pour l'instant, on n'a jamais pu vérifier, mais qui serait les Africains n'ont pas la culture, les Africains ne vont pas lire. Donc ça, c'est un des préjugés les plus terribles.
C'est un truc de
blanc.
Et c'est
vraiment... Et oui, c'est la chose qui motive le plus les gens pour me décourager dans le projet. Mmh. Et puis après, oui, il y a l'absence de légitimité totale. Mais ça, à la limite, ça arrive un peu plus loin. Et donc voilà, donc du coup, je me dis, bon, j'ai un avis professionnel qui me suggère d'y aller. On va y aller. On se réunit avec ma famille. On se dit, bon, bah, on va aller voir toutes les expositions. On va regarder tous les musées. On va comprendre comment ça marche. On va poser des questions aux professionnels qui savent comment on fait une vitrine, comment on éclaire, comment on accroche, comment... Et puis, avec l'aide de 4-5 personnes professionnelles qui vont nous donner plein de conseils et qui vont venir au Bénin nous aider, on crée la structure, on ouvre un espace, soit on loue un immeuble, on le repeint en blanc, on met des spots un peu sérieux. Et puis après, c'est mon tour de jouer et de convaincre les artistes d'accepter de me prêter des œuvres pour que je les expose. Et voilà, ça me prend un an après avoir vu l'exposition Africa Remix et on ouvre en juin 2005.
Oui. Non, mais ça va quand même, finalement, quand même très vite.
Ça va très vite parce que tout le monde a des préjugés. En Europe, les gens ont beaucoup de préjugés post-coloniaux sur l'Afrique. Et en fait, ils ne se rendent pas vraiment compte d'une chose, c'est que d'abord, l'Afrique est quand même un des centres du monde. C'est pas forcément toujours l'Europe. Quand on est au Bénin, le Bénin est le centre du monde. Et le Bénin va vite parce qu'on est un pays en développement. Mmh. On n'est pas un pays sous-développé, on est un pays en développement. Et en fait, en développement, ça veut dire qu'on part d'assez loin, mais qu'on a plein de choses à faire. Et du coup, on va très très vite pour les faire. Donc en fait, quand on dit qu'on veut faire un projet, le Bénin donne la capacité de faire le projet extrêmement rapidement à une échelle qui serait très compliquée dans des pays occidentaux légèrement vieillissants.
Oui, je comprends bien. Alors, est-ce que du coup, vous avertissez Simon Djami du projet ou alors vous attendez l'ouverture? Enfin, est-ce que Simon Djami, justement, qui finalement vous a presque donné l'idée indirectement, est-ce qu'après il vient vous voir, vous rencontrer, comment ça se passe?
Alors c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que Simon Djami est une superstar. C'est pour moi, c'est vraiment une des personnalités les plus importantes du monde de l'art. Donc évidemment, je n'ose absolument pas le prévenir.
Ah oui.
Je n'ose pas lui écrire et d'accord. J'ose pas lui dire que je fais ça parce que c'est pas Africa Remix, ce qu'il a fait, c'est juste il fait une tournée dans les plus grands musées mondiaux et moi j'ouvre un espace de 800 mètres carrés à Cotonou. Donc je ne le préviens pas, je ne lui dis rien parce que je vois d'accord. pas du tout à quel titre je pourrais me permettre de déranger quelqu'un d'aussi important. Et je le rencontre 6 mois après l'ouverture de la fondation. Et en fait, je comprends qu'il s'est senti, enfin, il a compris qu'on ouvrait, il a entendu parler de nous et il a été assez choqué qu'on prenne même pas le temps de lui écrire ou de le prévenir. Et donc, en fait, ce qui était une pure timidité est petit peu conçu, enfin, est un petit peu vécu par lui comme quelque chose de déplaisant, alors que c'est une petite erreur d'appréciation qu'on fait quand on n'a pas tout à fait 25 ans et qu'on se lance un projet. Et donc, évidemment, après, il vient. Et il vient régulièrement et en plus, il apporte énormément de choses parce qu'il parle avec nos guides, avec les médiateurs qu'on a formés. Il n'y a pas de formation au Bénin pour les médiateurs culturels. Il n'y a pas encore de filière d'histoire de l'art à l'époque à l'université. Donc, on se base surtout sur la bonne volonté et la motivation des équipes à apprendre, à se motiver, à inventer leur métier. Et du coup, Simon va intervenir régulièrement auprès d'eux et ça, pour nous, c'est inestimable.
Alors, Aujourd'hui, donc en 2020, ça fait 15 ans du coup, que la fondation existe. Qu'est-ce qui s'est passé en 15 ans? Est-ce que là encore, c'est allé très vite ou finalement, il y a une courbe, je veux dire, ça va très vite et après, le temps que tout s'installe, le temps que ça prenne, justement, ce que vous dites, il y a peut-être une scène à... D'ailleurs, est-ce qu'il y a une scène finalement à créer? Quel est votre rôle dans cette scène-là aujourd'hui?
Non, alors nous, on a une chance qui est qu'on est peut-être un tout petit pays, mais on a un pays qui culturellement est extrêmement riche et on a la chance d'avoir des créateurs fantastiques. Donc en fait, c'est aussi ça qui permet de la naissance de ce projet. C'est-à-dire qu'on n'a pas, importé le talent.
Oui.
Le talent, il est là. Mmh. Il est là et il existe, évidemment. Les artistes existent, ont leur carrière. La seule chose, c'est que les populations au Bénin n'y ont pas accès parce qu'il faut connaître la personne, aller chez elle. Enfin, du coup, nous, on sert de lien avec le public pour que le public rencontre l'œuvre et que le créateur ne soit pas... Vous savez, souvent, comment dire, en Afrique, on s'attend souvent à ce que les artistes fassent les choses, souvent gratuitement parce que ça leur donne de la visibilité, ce qui est la nouvelle chose à la mode. Mmh. Et puis, on leur demande de faire les expositions, d'écrire les livres, de les publier, de faire tout ça. Nous, on essaye d'empêcher cette partie-là parce que c'est pas, les artistes sont censés se concentrer sur leurs œuvres et pas sur la logistique autour. Donc, nous, on apporte une plateforme qui permet aux artistes d'être vus sur leur continent. Et donc, du coup, les choses vont assez vite parce que le public arrive tout de suite. Parce que le public arrive immédiatement et qu'on va le chercher, on lui parle, on se présente, mais très rapidement ça arrive. On fait un pari qui est un peu différent de celui des musées d'art contemporain. C'est-à-dire qu'on ne va jamais s'adresser au CSP++, on va plutôt aller dans les écoles, sur le terrain, dans la rue, convaincre les gens de venir nous voir et leur expliquer à quoi on peut servir dans leur univers. Il n'y a pas d'autre structure muséale à Cotonou. Les structures muséales qui existent sont des structures coloniales transformées en musées nationaux à l'indépendance et ces endroits sont quand même chers, relativement inaccessibles, enfin ils ne sont pas dans les zones les plus habitées. Cotonou, qui est la capitale d'un million d'habitants dans un pays de 10, ne compte aucun musée. Donc du coup on va quand même expliquer à quoi on va servir parce qu'en fait sinon les gens, enfin je vois pas pourquoi les gens rentreraient au musée vu que le concept de musée est pas là, donc il n'y a pas de raison que les gens se disent c'est pour moi. Donc on va aller chercher les gens et puis ils vont répondre très vite, hein. On va en chercher un et il y en a 10 qui viennent, donc du coup ça va prendre tout de suite en fait. Mmh. Au niveau du public. Et puis après, et ben voilà, notre devise de départ, c'était faire vite et mal. Parce que s'il avait fallu attendre que je sois un immense conservateur, on trouve des financements dans le monde entier, bah, ce projet aujourd'hui n'aurait probablement toujours pas vu le jour. Mmh. Donc, on s'est dit, on fait vite et mal, et puis on corrige. Et puis on fait les choses, et puis on les améliorera. Mmh. Et en fait, avec ce principe, qui est un principe qu'on peut, adapté à une fondation privée, pas forcément, je ne me serais pas lancée dans une fondation sur la chirurgie cardiaque, vous voyez, mais dans une fondation d'art contemporain, on s'est lancé. Et puis les spots, on s'est trompé, il y en a qui ne sont pas de bonne qualité, ben on les changera. Et puis on s'était dit qu'il fallait ouvrir le dimanche, puis en fait le dimanche tout le monde va à la messe, ce n'est pas du tout pratique, donc on change les horaires. Ouais. Donc on fait comme ça, voilà, pour tout. On essaye de transformer, d'améliorer, d'écouter ce que le public nous dit et on essaye d'être le plus souple possible, d'être tout le contraire d'une institution bloquée sur des règles. Toutes nos règles sont flexibles.
Ok. Et alors, votre rencontre avec le... Puisque bon, c'est ça qui nous a réunis ce matin, au moins par téléphone. Votre rencontre avec le FIT, comment ça s'est passé?
Le FIT, je crois que c'est une idée de Simon Jamy de nous mettre en contact et de parler de la fondation. Mmh. Et donc, voilà, quelques années plus tard, la superstar se penche sur nous. non, voilà, c'est une idée de Simon Jamy d'impliquer la fondation dans l'idée que le FIT doit avoir des connexions avec le continent. D'accord. Et donc, c'est comme ça que se fait la rencontre.
Ok. Alors aujourd'hui sur la trentaine d'artistes que va compter l'exposition à partir de septembre là, quels sont les artistes on va dire labellisés Fondation Zinsou?
Non, 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 on est une plateforme qui présente les artistes, on ne labellise pas les
Vous
artistes.
ne labellisez
On
pas?
a la chance, on a la chance de pouvoir accueillir certains d'entre eux en résidence,
Oui.
d'avoir des œuvres d'autres dans la collection et d'avoir des dialogues réguliers avec nombre d'entre eux. Mais non, non, c'est plutôt nous qui sommes dans la position d'être honorés de voir des artistes qui sont passés par chez nous être au FIT aujourd'hui.
D'accord, très bien. Mais alors, donc du coup, on aura qui est passé par chez vous?
Alors, du coup, Pauline Guerrier est venue en résidence à la Fondation et a fait un grand solo show au musée d'Ouida en 2018.
Elle m'a raconté son excusez-moi, mais elle m'a raconté son aventure, sa quête de l'indigo, là, c'était une histoire assez incroyable. J'ai beaucoup aimé elle a été complètement marquée par son voyage, par son séjour au Bénin, Pauline.
Pauline Guéret, c'est une artiste très extraordinaire. En plus, elle est très jeune et elle est arrivée au Bénin et c'était dans l'idée de faire une résidence, mais avec aucune production à la clé. Enfin, l'idée, c'était qu'elle pouvait aussi se concentrer sur ses recherches et elle a passé 15 jours à réfléchir, à lire et après, enfin, après, elle n'a jamais arrêté de chercher, mais elle s'est mise à produire et à produire des formes très étonnantes, très nouvelles dans son travail. Et elle a embarqué l'équipe de la Fondation et après le public de façon sidérante.
Ah oui.
Certaines personnes du public nous disaient, on est un petit peu déçus, on avait cru qu'elle était béninoise à la fin. Tellement elle a su s'approprier des codes de la culture et les transformer, les donner à voir, les valoriser. Enfin, ça a fait une grosse, grosse impression son exposition. Pour une toute jeune femme, c'est très impressionnant de voir quelqu'un qui est capable de réinventer son travail, de se remettre en question, d'inventer de nouvelles techniques, de s'adapter à un environnement qui n'est pas du tout le même que celui dont elle vient. Donc voilà, ça a été une expérience juste formidable. Donc Pauline, on a eu la chance de la avoir à la Fondation. Et donc voilà, elle fait partie du projet. Alexandre Gourson, c'est un artiste qui est dans la collection. Et voilà, donc, moi j'avais vu des œuvres d'étudiants en photocopie sur un papier lors d'une de nos conversations. Et j'avais été très marquée par ces œuvres. Et donc le jour où l'opportunité s'est présentée de les acquérir, je me suis dit qu'elles auraient un sens tout à fait fort dans la collection. Et donc ça, c'était pareil, un très très jeune artiste, mais avec des perspectives à mon avis très très fortes parce que c'est quelqu'un de tout à fait passionnant, discret et vraiment avec une culture très riche et une sensibilité incroyable. Donc voilà, il y a Pauline et Alexandre. Et puis après, il y a Nena Okoré, une artiste voisine du Bénin, parce qu'elle est nigériane. Elle est nigériane, elle est née en Australie, elle vit aux États-Unis, mais elle a travaillé beaucoup au Nigeria. Et elle travaille en faisant ses installations totalement sculpturales, avec des matières de récupération qui sont très très étonnantes dans la forme et qui sont des sculptures gigantesques, mais d'une fragilité totale en même temps, parce que c'est fait à partir de fibres de toile de jute retravaillées, mais qu'elle retravaille de telle manière qu'elle leur donne des volumes inouïs. Et donc voilà, ça c'est une des artistes qu'on a acquis il n'y a pas longtemps et qui n'est pas encore venue au Bénin, qu'on n'a pas encore rencontrée, mais dont le travail est très intrigant et qu'on va suivre.
L'œuvre qu'on aura, que j'ai sous les yeux là, est nommée Memory Lane,
Oui.
c'est ça?
Oui, tout à fait.
Donc une œuvre où, alors moi malheureusement je ne l'ai qu'en photo hein, pour le moment, mais où on est quand même assez marqué déjà par le effectivement par le volume et cette couleur rouge très présente.
Oui, alors moi c'est une œuvre que j'ai achetée en photo, donc j'avais la même vision que vous au départ.
D'accord.
Et en photo, tout à coup, j'ai vu ça et je me suis dit, il se passe quelque chose. Et on était à Cotonou dans mon bureau et on a enchéri à Londres et on a réussi à obtenir cette œuvre. Et donc, on était dans une très, très grande attente en la recevant à Cotonou puisqu'on ne l'avait jamais vue. C'était la première fois, je pense, qu'on achetait une œuvre sans la voir.
Ah
Et
oui.
Mais oui, mais parce que j'avais déjà vu son travail. J'avais vu son travail à 154 à Londres. Et du coup, j'avais déjà été très, très étonnée par ses volumes et par ses matières qu'elle crée, qu'elle invente. Et du coup, voilà, du coup, je m'étais dit que, enfin, quand j'ai vu la photo, je me suis dit qu'il y avait quelque chose que j'avais déjà ressenti et que ça devenait important de le montrer. Et puis, j'avais lu beaucoup d'articles sur elle, j'avais lu ses interviews après avoir vu ses œuvres. Et je trouvais ça très intéressant, cette façon qu'elle a de s'intéresser à la fois à l'environnement, en utilisant ces matériaux récupérés. Cette façon qu'elle a de faire le lien entre sa vie aux États-Unis, son enfance au Nigeria, le fait qu'elle retourne régulièrement au Nigeria, la façon qu'elle a de travailler comme on travaille, comme certains artisans travaillent en Afrique, où elle parle d'un travail très répétitif qui pourrait ressembler à celui des femmes qui font toutes les tâches ménagères dans certaines familles plus pauvres d'Afrique de l'Ouest. Et du coup, elle raconte l'environnement, elle raconte les liens familiaux, elle raconte la tradition. Et puis, elle parle aussi avec beaucoup d'étudiantes, beaucoup de jeunes femmes au Nigeria, où elle leur propose d'utiliser les modèles qu'elles connaissent pour ce qu'on appelle le women empowerment, en leur expliquant qu'en fait, chaque petite chose du quotidien peut devenir tout à fait essentielle et peut devenir une œuvre d'art et qu'on peut se mettre dans cette démarche, même si rien ne nous y prédispose. Et donc, je trouvais ça intéressant, voilà, sa vision de l'environnement, sa vision de l'histoire qui se tisse, son histoire personnelle qui se tisse dans ses œuvres, cette idée qu'il faut accompagner les femmes et que c'est une œuvre résolument féministe. Voilà, je trouvais qu'il y avait tout ça et que tout ça méritait d'être accroché sur les murs du musée de Ouida parce que je pense que c'est important qu'il y ait toute une jeune génération qui ait accès à cette œuvre.
Ah, super. Ah oui, c'est incroyable. Et du coup, quand vous recevez l'œuvre, il se passe quelque chose de particulier au-delà de tout ça?
Oui, parce que l'équipe, il y a deux personnes dans l'équipe qui ont déjà vu les œuvres, mais les autres pas du tout. Donc, elles en ont une vision qui est uniquement celle qu'on a pu raconter des propos, enfin résumer des propos qu'on avait lus, entendus. Donc, du coup, c'était, oui, du coup, ça a créé une grande excitation dans l'équipe au moment de l'arrivée de l'œuvre, parce que parce que ça crée une émotion très forte et en même temps, sans aucun background, sans idée, ce n'est pas quelqu'un qu'on a reçu. D'habitude, les artistes viennent, nous racontent leur parcours. Donc là, c'était une œuvre un peu hors cadre pour nous. Et donc, ça a créé des réactions très fortes. Oui, c'était. Non, c'est une œuvre importante de la collection.
Quel lien justement vous avez là, on se dirige tout doucement vers la fin de la conversation. Quel lien vous entretenez avec les artistes? Parce que là justement, vous dites que c'est une personne que vous n'avez jamais rencontrée. Est-ce que c'est important pour vous justement le discours derrière l'œuvre, ou quand même la première des choses reste quand même ce que vous allez ressentir par rapport au travail qui est produit?
Alors, bizarrement, je pense qu'en fait, c'est lié. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les artistes qu'on reçoit et qu'on connaît, les formes, évidemment, nous fascinent et nous intéressent, mais c'est très rare que derrière une œuvre plastiquement très forte, il n'y ait pas de discours. Donc en fait, c'est un ensemble de choses. Il y a des artistes qu'on rencontre, on est fasciné par leur discours, et puis après, quand on voit leurs œuvres, finalement, on les retrouve totalement dedans, et vice-versa. Quand on trouve une œuvre comme celle de Nena Okoré, on passe et on ne peut pas rester indifférent. Et puis après, on se renseigne, on travaille, on lit, on parle, et c'est là qu'on réalise qu'en fait, effectivement, derrière une forme aussi complexe, il y a une histoire qui l'est tout autant. Donc je pense que le fond et la forme peuvent pas tellement, enfin en tout cas dans la collection, dans les œuvres de la collection, je pense que le fond et la forme peuvent pas tellement être dissociés. C'est pas l'histoire d'une œuvre uniquement qui me convaincra. Ça nous est arrivé une fois d'avoir un artiste qui parlait merveilleusement bien de son travail, un avocat formidable, un ancien avocat reconverti qui racontait son œuvre, ça. Et alors, plastiquement, ça donnait pas du tout le résultat attendu. Et tout était dans le discours. Et donc ça, évidemment, ça peut pas rentrer dans la collection parce que ça n'a pas de sens. Nous, il nous faut quelque chose qui soit lié. Et ça, c'est l'avantage enfin, la relation qu'on peut avoir aux artistes. C'est que j'ai l'impression que quand les artistes viennent en résidence chez nous, c'est le départ d'une conversation. C'est une conversation qui s'arrête jamais. C'est-à-dire que quand on propose une résidence de 3 mois, ça va pas être un dialogue de 3 mois. C'est un dialogue à vie. quand Joël Andriano Maharisoa vient au Bénin et prend toute la fondation et fait une carte blanche absolument spectaculaire, qui emballe le public dans une forme ultra conceptuelle basée sur les émotions, donc qui est une forme très nouvelle pour notre public. C'est une conversation qui commence et c'est une conversation qui continue aujourd'hui. C'est quelqu'un à qui moi j'ai besoin de parler de manière quasiment hebdomadaire sur tous les sujets, sur sa création, sur la fondation, sur les expositions qu'on voit, sur les artistes que je découvre et que j'ai envie de faire rentrer dans la collection. Voilà, c'est une conversation qui s'ouvre en fait avec chaque artiste qui intègre la collection et surtout qui viennent en résidence parce que c'est là que le lien le plus fort se tisse. Mais du coup, c'est une conversation qui s'arrête jamais.
Oui. En début de conversation, vous me disiez que vous aviez peur de dire des banalités si je vous posais la question du love, etc. Et pourtant, j'ai l'impression que depuis le départ, mais je dirais même depuis vos vacances qui sont en fonction des musées, j'ai l'impression que tout ça, finalement, c'est une espèce de longue histoire de love. Alors, à voir si c'est du love, etc., et comment vous comprenez le etc., mais j'ai l'impression que votre démarche, c'est au-delà d'une démarche, j'y lis comme une sorte d'engagement de tout votre être dans ce que vous faites là.
C'est-à-dire que quand on a été confronté très jeune, enfant, à l'art, par ses parents qui pensent que c'est une des transmissions les plus importantes et qu'il n'y a rien qui sera plus important que toutes les formes d'art, hein, que ce soit la littérature, la musique, la création plastique. Enfin, c'est vraiment la chose. Moi, j'ai toujours entendu mes parents me dire que la raison pour laquelle on travaillait, on faisait les choses et ça, c'était qu'à un moment, ça nous donnait accès à l'art. Et l'accès à l'art, en plus, chez nous, c'est vraiment l'accès au musée. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait anodin. Moi, si j'avais pas créé de musée, je suis pas sûre que j'aurais collectionné des œuvres, parce que pour moi, les œuvres doivent être partagées, doivent être vues. Il y a c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai créé la fondation, mais après j'ai créé le musée pour la collection permanente, parce que la fondation, au fil des années, avait acquis des œuvres qu'il fallait du coup stocker entre deux expositions. Et je me disais, mais les œuvres sont pas faites pour être dans des stocks. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on remet le rideau sur la culture. Enfin, il n'y a plus d'accès. Donc du coup, c'est quelque chose qui, oui, c'est la transmission de l'amour des parents se passe aussi par la culture, par le musée, par ses visites, par ses explications, par toutes les histoires qui découlent de toutes les œuvres. Et du coup, je pense que c'est ça, moi, que j'ai envie de... Enfin voilà, j'ai été éduquée comme ça et du coup, c'est ça qui me semble important de passer à la génération suivante. Et le fait au Bénin d'avoir pu le faire à l'échelle de la capitale, voilà, c'était la chose que moi je pouvais apporter. C'était la question se posait de à quoi on sert et qu'est-ce qu'on peut apporter au monde qui nous entoure. Et ben moi c'était là-dedans que j'avais été pré-programmée, on va dire, pour faire quelque chose comme ça. Et j'ai eu la chance d'avoir les moyens de le faire. Et donc oui, je pense que c'est une histoire importante et que à mon avis, c'est la création qui donne un sens à l'existence.
Vous-même, vous créez, vous faites ?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non. Moi, j'ai été élevée dans l'idée qu'on avait la chance de voir le talent des autres. Ouais. Et à force de voir des talents depuis toute petite, j'ai l'impression que maintenant, j'arrive assez bien à voir le talent. Et donc, j'ai la chance d'être entourée de gens incroyablement talentueux qui créent. Et moi, mon rôle, c'est de les mettre en valeur.
Ce qui est une forme de talent artistique aussi, dans un sens.
Oui, c'est-à-dire que moi, je ne ferais pas l'affront de... de mettre des idées sur un papier ou sur une toile. Non, ça, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de me dire, il faut que... Voilà, et chacun doit pouvoir faire... ce pourquoi il est destiné. Donc quand Joël Andriano Maharisoa fait des installations incroyables, des œuvres textiles inouïes, quand il transfigure les émotions dans ses œuvres, ben, moi ce que je peux vraiment lui apporter, c'est de m'assurer que le public rencontre les œuvres, le fasse dans des conditions qui sont les bonnes. Et moi, c'est ça ma partie, en fait. C'est la petite, moi, je fais la petite main de ça. Mais il faut que quelqu'un le fasse. Donc, c'est pas un rôle. Moi, c'est un rôle qui me va très bien. Et parce que je pense que c'est très important de le faire. Et j'ai la chance de pouvoir faire ça.
Excellent, très bien. Bon. Bonne continuation et puis à très vite.
Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.
Au revoir, merci.